Bonjour et bienvenue au programme jusqu'à 10h, des solutions et un invité engagé pour la transition écologique, sociale et sociétale. Aujourd'hui, c'est un invité que tout le monde aime, ou presque, qui est à mon micro. Un grand passionné de la cause animale qui a commencé par s'extasier devant les reptiles. Après tout, chacun son truc. Mais il n'est pas connu pour ça. C'est plutôt les yeux levés vers le ciel qu'on a l'habitude de le voir. Les oiseaux, donc, c'est un peu sa raison d'être et qu'importe leur taille, leur couleur, leur chant. Par contre, ne lui parlez pas de leur goût. Ça, non. S'il a le goût de quelque chose, pour nos amis les bêtes, c'est peut-être les coups qu'il a pris devant la France entière pour les protéger des excès de l'homme.
Tu vas pas nous averdir ici.
Allez.
Surtout toi, hein. Et c'est pas toi qui vas faire la loi, je te l'ai déjà dit.
Je suis très tolérant de nature. Des gens comme ça me rappellent le marquis du Chat Carabas. Tout ce qu'ils voient leur appartient. Non, l'écologie, c'est la science exacte de la nature. C'est pas finalement une politique pour la nature.
Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous n'êtes pas dans le cœur des chasseurs et j'ai bien l'impression que c'est réciproque, puisque pour vous, les oiseaux sont les indicateurs de l'état de la biodiversité. Quand ils disparaissent, c'est la vie qui s'estompe. Bon allez, on remet les pieds sur terre parce que l'engagement de votre vie à vous, ce sont les animaux et tous les animaux, à tel point que vous leur avez donné l'opportunité de nous écrire dans votre dernier livre, où cochons, poussins et lapins écrivent à ceux qui les prennent pour des bêtes. Résultat, 17 lettres à lire, le cœur serré pour rappeler que la cause animale, c'est l'affaire de tous et certainement ce pourquoi votre cœur à vous bat chaque jour.
France Inter. Des idées pour demain. Valère Correa.
Bonjour Alain Bougrain-Dubourg.
Bonjour Valère.
Bienvenue sur France Inter. On est d'accord qu'entre les chasseurs et vous, c'est pas vraiment l'amour fou?
J'ai du mal à accepter qu'on retire la vie pour le plaisir. En ce début de 21e siècle, ça m'empêche pas pour autant de travailler avec quelques chasseurs en région, sur le terrain, dans l'intérêt de la protection d'un milieu naturel ou de certaines espèces. Les gypaètes barbus, par exemple, qu'on a réintroduit il y a pas longtemps dans les Cévennes. Les chasseurs étaient là, ils m'ont même embrassé. J'ai trouvé que la journée commençait bien.
Sur France 5, dans C'est à vous, vous avez fustigé le fait que les autorités locales tolèrent encore des pratiques de chasse interdites, ça existe toujours ça ?
Oui, il y a du braconnage. Je crois qu'on a gagné. Les derniers en date, comme braconner, c'était les ortolans dans les Landes. Et il y a un rapport qui est sorti il y a pas très longtemps et qui a fait le constat dramatique que les prélèvements par braconnage impactaient la population de ces oiseaux qui sont en déclin de pas loin de 60%. La tourterelle des bois qui a été massacrée illégalement dans le Médoc chaque année au 1er mai, il y avait pas loin de 30 000 oiseaux qui tombaient, qu'on tuait, hein, alors que la chasse était fermée. Eh bien, ces effectifs sont tombés de 80% encore aujourd'hui. Et l'Europe a demandé à ce qu'on fasse un moratoire sur cette espèce à l'agonie. Que répond la France ? Non, on continue de chasser. C'est inacceptable. Alors, si les premiers écologistes de France, les chasseurs, sont ces gens qui continuent de tirer sur des espèces à l'agonie, ces gens qui élèvent 15 millions d'animaux, des faisons, des perdrix, des lapins, des lièvres et tout, dans des élevages, pour les relâcher devant les fusils, si c'est ça la chasse, c'est 6000 tonnes de plomb qui tombe dans la nature chaque année. J'ai une seconde ou pas ?
Ah bah même deux.
Ça me soulage.
Allez, faites-vous plaisir, Alain Bougrain-Dubourg.
Non mais enfin non, je trouve ça pathétique. Mais par exemple, aujourd'hui, on a des cartouches en plastique. Autrefois, c'était en carton en général. Les chasseurs fabriquaient.
Je les vois très bien. Elles ont de couleurs souvent rouges ou d'autres
exactement.
Couleurs.
Ouais, là, ils sont en plastique. 200 millions de cartouches tirées chaque année. On a calculé que ça correspondait à l'équivalent de 25 millions de bouteilles plastiques jetées dans la nature.
Les chasseurs
année.
Les ramassent, Alain Bougrain-Dubourg.
Oui, bien sûr.
Allez, on va ensemble parler pendant cette heure de la façon dont vous défendez la cause animale. J'aimerais bien savoir aussi comment ça se traduit dans votre quotidien. Mais on va commencer par le commencement. On m'a soufflé que lycéen, vous vous intéressiez déjà plus aux animaux qu'aux études. C'est vrai, ça ?
Oui, malheureusement, je le regrette aujourd'hui. Je voudrais avoir une culture qui aurait été portée par la philosophie, que sais-je. Mais c'est vrai que j'ai presque la prétention à l'époque d'être meilleur biologiste que mon prof de sciences naturelles. On disait sciences naturelles à l'époque. Et j'avais 10 ans, j'étais en pension et il y avait juste à côté le Muséum d'histoire naturelle de La Rochelle. Et les préparateurs ont eu la gentillesse de prendre sous leur aile ce petit gamin qui était fasciné par la girafe empaillée dans l'escalier. C'était la première girafe offerte à la France par le pacha d'Égypte qui était arrivée, qui a marché marcher à pied de Marseille jusqu'au Jardin des Plantes. Bon, et moi, ça me fascinait de voir ça. Je voyais un squelette de dauphin, j'imaginais l'animal plongeant dans les flots du Pacifique. Enfin, c'était la boîte à rêves, l'invitation à l'exotisme. Et donc...
Intuitivement, finalement, ouais. c'était naturel en vous, ça venait tout
J'étais
seul.
J'étais curieux c'est... de nature, comme
Parce
beaucoup
que c'est
d'autres.
Petit, 10 ans.
Ben oui, c'est petit. Ben, d'autres aimaient le ballon, les bagnoles, tout. Moi, c'était les animaux et la nature. À tel point que je ne voyais pas d'autres orientation possible qu'une cohabitation avec l'animal dans ma vie. Et le problème, c'est que j'étais nul à l'école, donc pas question de devenir vétérinaire ou quoi que ce soit.
On va pas faire votre biographie complète, non. Parce qu'elle est riche, il y a sans doute des étapes marquantes. Bon, on a en tête évidemment les émissions que vous avez présentées, on a en tête la Ligue de protection des oiseaux, on va en dire un mot évidemment, mais peut-être que vous pourriez nous donner une ou deux étapes marquantes ou une rencontre particulière qui vous amenait à dire Ça va être l'engagement de ma vie.
Il y a peut-être Jean Rostand, le biologiste admirable, académicien, qui a eu la gentillesse, j'avais 20 ans à l'époque, de m'accueillir chez lui et de me faire confiance. Il avait été frappé par le gamin que j'étais qui défendait les serpents et j'avais plaidé les serpents auprès de lui sans avoir conscience qu'évidemment il les connaissait tellement mieux que moi. Et je lui disais, mais maître, les serpents ne peuvent pas s'exprimer, ils n'ont pas de paupières, ils n'ont pas de membres, ils n'ont pas de regard, ils n'ont pas d'expression. Il faut qu'on fasse l'effort d'aller vers eux, etc. Bon, et il avait trouvé ça très bien. Il m'avait proposé après de revenir. La deuxième fois, j'avais pris un peu d'assurance et il m'a présenté. Alors, il y avait des hauts dignitaires qui étaient là à chaque fois à Ville-d'Avray. Et il a dit, je vous présente Monsieur Bougrain-Dubourg, naturaliste en herbe. Et moi, j'avais pris de l'assurance. J'ai dit, non, maître, naturaliste en herpétologie. Je ne savais pas ce que ça voulait dire en herbe.
et évidemment, dans votre parcours, un truc, maintenant qui est devenu, totalement lié à votre personnalité, la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux. Au départ, on vous propose une présidence pour 3 ans. Ça fait 30 ans que vous y êtes. Qu'est-ce qui s'est passé?
Il s'est passé que c'est une petite association. Il y avait 3000 membres et 2 salariés. Aujourd'hui, on est 420 salariés, plus de 51 000 membres. Et j'ai rencontré des gens, d'abord, qui avaient un cœur énorme. Des gens gentils, des gens généreux, des gens admirables. Et puis surtout, j'ai rencontré des problèmes qu'il fallait résoudre. Et notamment, le braconnage des tourterelles dans le Médoc. Et je me suis dit, on va régler le problème. Je vais demander, il y avait Brigitte Bardot, Sophie Marceau, Hubert Rive, Théodore Monod et bien d'autres anémones qui sont venus pour m'accompagner, nous accompagner sur le terrain. Ça a duré 20 ans et j'ai dit je ne lâcherai pas. Après, il y a eu l'Erika. On a porté l'idée du préjudice écologique.
C'était quoi, 1999
ça. Ça a duré 10 ans pour aller jusqu'en cassation. On a gagné. Après, il y a eu les ortolans dont vous parliez. 10 ans. Et à chaque fois,
c'était... Chaque fois, un nouveau combat. Ça prolongeait d'autant
puis
vos mandats, etc.
Il faudra quand même que je m'arrête un peu.
Alain Bougrain-Dubourg, on parle souvent des premières fois dans la vie de tous les jours, mais quand on veut faire sa transition, il faut aussi parfois parler des dernières fois. Vous vous souvenez, par exemple, vous, d'une dernière fois que vous avez vécu, vous avez décidé pour faire votre transition?
Valère, j'ai honte. J'ai trop de dernières fois que je ne tiens pas. En clair, je trouve que je prends trop la bagnole, je trouve que je prends encore un peu trop l'avion, il y a des fois où je pourrais m'en passer, il y a trop de dernières fois où je me dis, là c'est pas bien, Alain, tu vas changer, et y compris la viande évidemment, mais je commence...
Donc il y a des dernières fois à venir.
Oui.
Mais on va en parler dans quelques minutes de toutes ces dernières fois à venir. David, en tout cas lui, il doit sûrement se souvenir de cette dernière fois qu'il a mangé de la viande, parce qu'il a ressenti un truc vraiment étrange, il s'est passé quelque chose à ce moment-là. Bonjour Léa Minot.
Bonjour Valère. Cette semaine, une dernière fois qui ne passe pas par la tête, mais par le corps, puisque David est devenu végétarien après avoir éprouvé la souffrance de l'animal qu'il avait dans son assiette. Désolé, je me suis un peu perdue au milieu des champs où il y a plein de charolaises à l'extérieur.
Je m'appelle David et la dernière fois que j'ai mangé de la viande, c'était en octobre 2018. Je suis arrivé dans le Charolais il y a 1 an et demi. Et à cette époque-là, je mangeais de la viande, j'étais carnivore, ouais.
Et c'est pas une réflexion qu'on vous fait souvent d'être végétarien, alors qu'ici on mange beaucoup de viande quand même?
Si, souvent on me dit, mais quelle connerie d'être dans le pays de la vache charolaise sans en profiter. Ça me faisait un peu rêver, forcément j'y ai pensé quand on s'est installé ici. Ça m'a fait plaisir d'aller chez le boucher, dans le village à côté, pour avoir une belle côte de bœuf qui coûtait pas très cher. La première, on l'a faite au four. Et c'était délicieux. Je sais qu'il en restait le lendemain et je rongeais l'os, quoi, tellement j'adorais ça. Et en octobre dernier, je revenais d'un stage de clown qui va assez loin dans la recherche de ses émotions, tout ça. Donc je suis revenu là un peu bouleversé, quoi. Donc je rentre chez moi après ce stage de 3 semaines. Donc j'étais un peu à fleur de peau. Et mon père venait nous rendre visite pour quelques jours. Et pour fêter ça, je voulais acheter une côte de bœuf. Donc j'étais chez le boucher, où j'allais d'habitude. J'ai acheté une belle côte de bœuf pour le soir. Et je l'ai faite au barbecue, parce qu'il faisait encore bon. C'était un bon repas, elle était bonne, on était contents. J'ai souvenir qu'elle était très bleue, à peine cuite. Et je me suis dit que j'aurais dû la laisser un tout petit peu plus pour qu'elle soit vraiment saignante, quoi. C'est vraiment la cuisson que j'adore, pour avoir le goût du sang. Et au réveil, je me sentais un peu patraque, je me sentais un peu mal au ventre, mais ça allait. Le matin, je décide d'aller faire un peu de parapente. Et puis, je reviens vers 15h, et là, je commence vraiment à sentir quelque chose qui va pas dans le ventre, ça commence à me faire mal, quoi. Et puis, je vais m'allonger. La nuit tombait et je m'allonge dans le lit et je me souviens que je commence à pleurer. Et je sais pas pourquoi les mots sortent tout seuls, quoi. Je m'excuse auprès de la vache, en fait. Je dis pardon, excuse-moi, je savais pas, je vais être dans un état un peu second. C'est comme si c'était la douleur de la vache qui parlait, en fait. C'est ce que je m'explique, moi, en fait, que la vache avait dû sûrement beaucoup souffrir quand on l'a abattue. Et que du coup, la viande devait être pleine de toxines de peur et d'angoisse. Et ça va vraiment pas, ça empire la douleur au ventre. Et je sais pas, l'idée me vient d'aller enterrer l'os. Donc je fonce dans la cuisine, j'ouvre la poubelle, je fouille. Mon père me voit passer dans le salon, n'a pas décidé avec l'os de la côte de bœuf dans la main. Il fait un peu nuit, il comprend pas ce qui se passe. Et je vais au fond du jardin avec une pelle et je creuse un trou et j'enterre l'os. Et puis je fais un petit laus pour m'excuser auprès de la vache. Puis j'ai remis la terre. Je suis rentré et c'était fini, c'était parti. J'avais plus de douleur, plus rien. Quand on me demande pourquoi je mange pas de viande, je le raconte pas vraiment ça. Je le dis que je suis tombé malade en mangeant une côte de bœuf. Ça, c'est la version sociale. Parce que je l'explique pas, en fait. Moi, si je disais vraiment à chaque fois comment ça s'était passé, on me prendrait pour un fou. Depuis ce jour-là, j'ai pas mangé un gramme de viande ni de poisson.
Est-ce que je peux regarder un petit peu votre frigo, par exemple, pour voir ce qu'il y a ?
Oui, bien sûr.
Ben, il y a des confitures et des légumes, quoi. Un peu de fromage, et c'est tout. Et comment vous faites pour les protéines, alors ?
On remplace ça par des légumineuses, quoi. Des lentilles, des pois chiches, des pois verts. Et par les œufs aussi. Je me sens bien, je digère beaucoup mieux depuis que j'ai arrêté. Je me sens en pleine forme. Quand je passe à côté de vaches ou de chevaux dans les champs qui m'entourent, je me sens très proche. Je me dis qu'ils doivent sûrement sentir qu'il n'y a pas de viande en moi, peut-être, c'est ce que je me raconte. J'ai beaucoup de compassion pour eux. Je me sens plus en accord avec l'amour que je porte pour les animaux, en phase avec ce que je pense. Cette décision rejoint une prise de conscience écologique, mais en tout cas, c'est pas une décision que j'ai prise pour réduire mon impact environnemental ou quoi que ce soit. Cette décision s'est imposée à moi, donc tant mieux, je suis content parce que du coup, elle rejoint ce que je pense de la place que devrait prendre l'être humain sur cette planète.
Et pour celles et ceux qui voudraient se lancer et mettre un premier pied dans la porte, il existe le lundi vert qui propose de ne pas manger de viande une fois par semaine.
La dernière fois que j'ai mangé de la viande, donc merci Léa Minot et à la semaine prochaine. Alain Bougrain-Dubourg, vous êtes végétarien, bien sûr.
Non, je fais le lundi vert, je mange quasiment plus de viande.
Donc le lundi vert, c'est...
On ne mange ni poisson ni viande
le lundi.
Voilà, une fois par semaine.
Ça a été d'ailleurs bousculé, il y a des gens qui disaient « mais ça sert à rien, qu'est-ce que c'est que cette
histoire ?» Ça sert peut-être à rien, ça nous rappelle à notre conscience et ça a moins ce mérite. Non, ce témoignage extrêmement émouvant qu'on vient d'entendre me rappelle une rencontre avec une femme que j'adorais, Marguerite Yourcenar, qui m'avait dit « Alain, je ne peux pas digérer la souffrance animale et c'est pour ça que je suis végétarienne ». Et Plutarque s'interroge sur la première fois qu'on a mangé de la viande, parce qu'il estime que initialement on est végétarien. Et celui qui a mangé de la chair, comment a-t-il vécu cela ? Et il s'interroge sur ceux qui trouvent qu'il y a un plaisir à cela, et au contraire ceux qui ont surmonté la difficulté pour finalement faire quelque chose contre nature. C'est très intéressant.
Alain Bougrain-Dubourg, franchement, je suis un peu scotché, et j'ai été scotché quand j'ai préparé votre venue, parce que je me suis dit, mais c'est pas possible qu'Alain Bougrain-Dubourg ne soit pas végétarien. Vous qui défendez tant la cause animale, qui connaissez tant de choses sur la souffrance animale, expliquez-nous comment c'est possible, comment on peut être en adéquation avec cet engagement de continuer à être carnivore.
Je suis pas exemplaire déjà, et j'ai presque envie de dire, mais je mange quasiment plus de viande, mais pourtant j'ai presque envie de dire que peut-être mes propos sont d'autant plus crédibles que je ne suis pas végétarien et
c'est
encore
un peu comme
moins
tout le monde.
Vegan, voilà. Et ça me permet de rejeter, mais avec sans réserve, avec détermination, tout ce qui est, par exemple, les œufs numéro 3 et bien d'autres choses, de me battre contre l'élevage industriel et voilà. Donc
les œufs numéro 3, c'est quoi?
En batterie, issus des élevages en batterie. Bon, évidemment, je mange pas de lapin. C'est une honte, l'élevage
99% des lapins qu'on mange, je crois, viennent d'élevage intensif, donc de conditions atroces, quoi.
Ouais. Et vous avez un quart de ces lapins qui meurent avant de partir à l'abattoir. Et vous savez à quel âge ils partent à l'abattoir? À 2 mois. Non, mais qu'est-ce qu'on fait? Quelle industrie odieuse on a générée?
Alain Bougrain-Dubourg, on peut dire que vous êtes quasiment devenu le lobbyiste de la biodiversité dans ce pays. Vous avez vos entrées quasiment partout. Vous passez votre temps à courir les ministères, rencontrer des gens, les élites, etc. pour faire changer les choses. Alors, est-ce que vous obtenez des résultats? C'est ce dont on va parler après The Raconteur sur France Inter. Raconteurs, Help Me Stranger sur France Inter.
Des idées pour demain.
Demain tout ira mieux.
Valère Correa sur France Inter.
Mon invité cette semaine est Alain Bougrain-Dubourg, journaliste et producteur. On parle beaucoup du climat ces dernières semaines et même ces derniers mois. Ça s'est vraiment cristallisé parmi les enjeux environnementaux sur cette thématique-là du climat. Et pourquoi pas la souffrance animale ou la biodiversité, Alain Bougrain-Dubourg ?
C'est vrai qu'il y a un paradoxe parce qu'on peut constater, et c'est heureux, qu'il y a une prise de conscience sur la question climatique en dehors d'un grand blond américain de l'autre côté de l'Atlantique, là, qui a toujours pas compris. Mais on voit pas la même prise de conscience sur le vivant. Alors pourquoi ? Je crois que parce que pour le climat, on a une lisibilité des événements et de leur intensité qui s'accélère, les sécheresses, les inondations, que sais-je encore. Et en face, on a une réponse. Pour le citoyen, la collectivité, l'entreprise, on peut faire de l'économie d'énergie, du covoiturage, que sais-je encore, mille choses qui permettent de lutter contre les gaz à effet de serre. Concernant la biodiversité, si l'outarde canepetière, le vison d'Europe ou la tortue d'Hermann disparaissent, on ne sait même pas que ça existe. Donc ça nous laisse totalement indifférents. En plus, malheureusement, on en est encore à cette notion du début du siècle dernier des animaux utiles. On adore la petite abeille qui est butineuse. On veut surtout pas qu'elle ait du tort et du mal parce qu'elle participe de la pollinisation. Mais le lézard au scellé ou la tortue, je ne sais quoi, on s'en fout. Et puis surtout, en face, comment agir ? C'est beaucoup plus compliqué parce que le déclin de la biodiversité s'explique prioritairement par une agriculture intensive avec son cortège de produits chimiques, par une artificialisation, c'est-à-dire 70 000 hectares de béton et d'asphalte.
Artificialisation des sols.
Des sols, voilà. C'est le béton et l'asphalte qui rongent les terres agricoles ou naturelles à l'échelle de 70 000 hectares par an. C'est colossal.
Mais là, on peut avoir des réponses, Alain Bougrain-Dubourg.
Oui, mais
on peut
pas le citoyen, c'est beaucoup plus dire. C'est l'autorité du politique. Et c'est pour ça que je leur en veux beaucoup. Parce qu'il arrive un moment où il faut arrêter de dire « on va faire ». Do it, faisons. On connaît les causes, maintenant il faut agir. Alors pour agir, il faut de la détermination et du courage. Et je suis désolé de dire que je constate que ça n'est pas au rendez-vous. Il n'y a pas les moyens mis en place. Par exemple, il y a des plans d'action en faveur des espèces. On n'a pas les moyens pour aider les espèces. Autrefois, quand on a sauvé, par exemple, il restait moins de 10 coupes de cigogne blanche en France. Aujourd'hui, on en a plus de 2000. Le faucon pèlerin disparaissait à cause du DDT dans les années 70. Aujourd'hui, il vient nidifier.
Le DDT, c'est quoi ?
C'était un produit chimique très violent qui avait notamment la faculté de fragiliser les coquilles d'œufs des oiseaux de sorte qu'ils ne pouvaient même plus avoir de poussins. C'était une horreur. Bon, le castor d'Europe avait quasiment disparu et tant d'autres espèces. Toutes ces espèces emblématiques, il y a eu des lois, notamment la loi de 76, il y a eu des engagements, des arrêtés, actions admirables des associations de protection de la nature. On a réussi à les sauver. Mais la situation d'aujourd'hui de la biodiversité sont des stratégies. Est-ce qu'on continue avec la même industrie agricole ? Est-ce qu'on continue d'assécher les zones humides pour faire du maïs, de drainer, etc. Voilà.
Il y a pas mal de questions, en tout cas, ça devient des enjeux. Sans doute, les choses ne vont pas assez vite, parce qu'il y a une chose que vous n'avez pas dite, et le rapport récent de l'ONU sur ce sujet de la biodiversité l'a rappelé, c'est qu'on est en train d'assister à la 6e extinction de masse. Oui. Elle se déroule sous nos yeux. Mais c'est surtout qu'elle a la particularité de se dérouler à une vitesse
une
incroyable.
Une accélération incroyable. C'est pas loin, c'est l'IPBES qui est le rassemblement des scientifiques pour la biodiversité. On les appelle souvent le GIEC de la biodiversité. Ils ont tout simplement évalué qu'on connaissait globalement 8 millions d'espèces actuellement, et il y a 1 million d'espèces qui sont sur le déclin, et effectivement, il y a une accélération comme jamais.
Je me fais l'avocat du diable, on peut se dire, bon, après tout, voilà, c'est un peu la loi de la nature, on va perdre 1 million d'espèces, dont acte, qu'est-ce que ça change pour l'homme ?
Ah non, pour moi, c'est un crime contre l'humanité, dans la mesure où l'homme ne survivra pas à l'absence du tissu du vivant. Il ne va pas s'en exonérer, il ne va pas vivre hors sol. Donc c'est un crime contre l'humanité que de maltraiter la nature. Le seul problème, c'est qu'on considère les espèces, mais pas le tissu du vivant. Et en considérant l'espèce, on se dit, on peut s'en passer. Mais quand on constate, et la science nous l'apprend chaque jour davantage, que c'est un tissu où tout est interconnecté. Un écosystème, tout simplement. Et ben là, ça nous engage à avoir le respect du vivant. Et puis, voyez-vous, moi je trouve qu'on est devenus les dominants en un siècle et demi à peine sur la planète, les dominants. Et par conséquent, on a aussi un devoir éthique de protection à l'égard des plus faibles.
La souffrance animale, c'est pareil, on en parle très peu. Pourtant, je crois, les Françaises, les Français aiment les animaux, sont attendris par... d'abord, ils ont un foyer sur deux, je crois, un animal domestique de compagnie. C'est quand même énorme. Et puis, on aime les animaux, on aime Walt Disney, on aime les dessins animés, on aime tout ça. Et pourtant, on continue de les manger sans penser à la souffrance qu'ils ont pu endurer.
C'est la puissance des lobbying, c'est scandaleux. En octobre dernier, il y avait la loi alimentation et agriculture, qui avait intégré, à la demande de Nicolas Hulot du reste, la question du bien-être
que
animal.
Que vous connaissez bien.
Que je connais bien, oui. Toutes les propositions, j'ai participé avec d'autres, sur le bien-être animal dans les élevages, etc., toutes ont été retoquées.
Mais pourquoi ?
Il n'y a pas eu une proposition, il n'y a même pas eu façon glyphosate, une potentialité de dire, ah bah ça, ouais, mais on va le faire dans 5 ans, ça on le fera dans 10 ans. Non.
Par quoi vous l'expliquez à l'avocat Dubourg ?
Ah bah c'est l'influence des lobbying, et à chaque fois on nous dit, laissez du temps au temps. Nous sommes prêts à laisser du temps encore qu'on est dans l'urgence. Vous savez, quand vous avez mal aux dents, que ça vous réveille la nuit, vous avez envie que ça s'arrête. L'enfer que vivent les animaux, c'est ça, à chaque instant. Donc, est-ce qu'on a beaucoup de temps devant nous ? Je trouve pas. Mais au moins, bon, ok, acceptons qu'on mette un peu de temps. Mais quand vous voyez les parlementaires, ils ont tout rejeté. C'est du mépris, c'est honteux. C'est une connerie politique, en plus.
En un mot, justement, Alain Bougrain-Dubourg, vous avez vos entrées dans quasiment tous les ministères, vous connaissez les politiques, vous les rencontrez, vous êtes consulté, vous êtes membre du 16. Est-ce que ça sert à quelque chose, tout ça, toutes ces rencontres et tout ce lobbying citoyen que vous faites ?
Ben, j'ai peur que ça serait pire si on n'agissait pas. Mais très honnêtement, j'ai honte des résultats. Moi, j'avais porté le statut de l'animal dans le Code civil. Au 16, j'ai été retoqué. C'est vous dire qu'il y a quand même des pressions difficiles. L'espoir, c'est l'Europe. L'Europe nous tire vers le haut, tant sur le plan de la biodiversité que de la condition animale. Vous allez prendre un truc très simple, l'expérimentation animale. Il est clairement dit au niveau de la Commission européenne qu'on doit à terme s'exonérer de l'animal dans l'expérimentation. Voilà, c'est un objectif à atteindre, et je le disais au ministère de la Recherche, prenez au moins cet objectif. Ne pensez pas qu'éternellement, on doive utiliser l'animal pour nos recherches.
La réponse,
oui, on va s'en occuper.
98% des Français mangent des œufs. En moyenne, nous mangeons 222 œufs par personne et par an. Sauf que le drame, c'est que manger des œufs, ça tue des poules. On ne le sait pas, mais c'est pourtant le cas aujourd'hui. Et c'est un drame. Ça commence à la naissance. Enfin, la sortie de la coquille. On trie les mâles et les femelles. Et les mâles, comme ils ne pondent pas, on les garde pas. Les femelles, elles, vont devenir poules pondeuses. Mais pendant seulement 18 mois. Parce que l'industrie mondiale de l'agroalimentaire ne laisse vivre les poules pondeuses qu'au maximum 18 mois. Après quoi, elles deviennent moins productives et elles sont mises à l'abattoir.
On va parler d'œufs, donc, Alain Bougrain-Dubourg. Vous n'êtes pas venu seul, c'est Fabien Solman, le fondateur de la société Poolhouse, qui vous accompagne. Pourquoi l'avoir choisi ?
Parce que c'est un type admirable. En tout cas, il porte des idées admirables. Non, ce que j'aime dans la démarche, c'est que il tente de faire reculer la souffrance animale, et ça peut être rentable. Ça peut générer du business. Et je crois que à chaque fois qu'on se prend dans la tronche, ah, vous mettez la nature sous cloche, il n'y a pas d'économie derrière et tout. Ben là, on fait la démonstration du contraire. Mais il faut expliquer ce que c'est que Poolhouse.
Bonjour Fabien Solman.
Bonjour Fabien.
On vient d'entendre un petit extrait pris sur votre site internet d'un petit clip. Qu'est-ce qui vous distingue, en tout cas, qu'est-ce qui distingue surtout vos œufs des autres ?
On essaie d'inventer tout simplement un nouveau mode de production dans lequel on revient sur des choses qui sont des évidences que plus personne ne remettait en cause. Donc on tue les poussins à la naissance dans l'élevage d'œufs systématiquement, les poussins mâles, 50 millions par an. On coupe les becs des poules à la naissance, 50 millions par an également, et c'est douloureux pour elles. Et enfin, on les tue à l'âge de 18 mois, alors qu'elles sont encore jeunes, elles peuvent vivre 6 à 10 ans et rester productives, mais elles baissent en productivité à 18 mois, et c'est l'âge où on les envoie à l'abattoir.
Alors attendez, là, il faut nous expliquer en deux mots, parce qu'on se demande tout de suite, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi tuer ces poussins? Pourquoi couper ces becs? Pourquoi tuer des poules à 18 mois?
On est dans un système, un mécanisme qui a sa propre économie, on a un prix cible de l'œuf à atteindre, et il s'obtient de cette façon-là. Et nous, ce qu'on a remis en cause, le point peut-être le plus étonnant dans notre projet, c'est qu'on a juste changé le prix de l'œuf. Et on a dit, ok, si on veut faire autrement, si on veut arrêter de tuer les poussins, si on veut arrêter de couper les becs, si on veut arrêter de tuer les poules, ça ne va pas coûter le même prix. Et on a lancé un œuf plus cher, qu'on a commencé à commercialiser depuis bientôt 2 ans, et le public a répondu présent. Donc ce sont des consommateurs, ce sont des personnes qui vont simplement acheter des œufs en magasin et qui agissent pour l'apparition d'un nouveau mode de production.
Donc les œufs Poulhouse, ce sont des œufs qui ne tuent pas la poule, c'est votre slogan. Ils ne tuent pas la poule parce qu'à 18 mois, une poule est moins féconde, elle pond moins d'œufs, donc elle est généralement tuée. Elle est tuée pour en faire quoi d'ailleurs? Qu'est-ce qu'elle devient?
C'est un peu difficile d'avoir les infos précises, mais en l'occurrence, ce qui semblerait, c'est que la plupart partent en Afrique, sont congelées et envoyées en Afrique où elles sont servies sous forme de nourriture. Ça ne correspond pas aux standards de consommation occidentaux, mais c'est toujours assez bon pour eux, et en fait ça déstabilise entièrement les filières d'élevage sur place, donc
magnifique.
Voilà, c'est pas fantastique.
Superbe. D'accord. Donc ça c'est pour les poules, vous les laissez vivre,
on les laisse vivre, et surtout on les laisse
vie naturelle.
Pondre, elles vont pondre finalement, on oublie qu'elles continuent à pondre, effectivement elles vont pondre moins, le rythme sera pas le même, mais finalement ces œufs sont tout à fait consommables, et les particuliers qui ont des poules chez eux le savent très bien, une poule de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans pond des œufs et ils sont très bons.
Un dernier mot peut-être sur le prix, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il faut payer le prix, je vous ai déjà aussi interpellé sur ce point-là, on est quand même à 1 euro l'œuf, c'est
absolument
très cher, ça n'est pas accessible à tous.
Notre produit est plus cher à produire, on a des surprises pour la rentrée, on va être capable de travailler sur ce sujet-là, mais de toute façon il y a un surcoût lié à la production d'un œuf, d'une poule qui va vivre l'ensemble de sa vie.
Et ça pose toujours la question de payer le juste prix aussi, des mauvaises habitudes qu'on a, etc. Mais enfin là, c'est un
En fait, le consommateur
sujet,
nous suit, c'est une protéine animale qui n'est pas si chère comparée à d'autres. 6 œufs, c'est presque 500 grammes, comparé à 500 grammes de viande ou 500 grammes de fromage. C'est une protéine excellente aussi, tous les nutritionnistes le reconnaissent. Donc voilà, il y a un prix à payer.
Merci beaucoup en tout cas d'être venu avec Alain Bougrain-Dubourg. Merci Fabien Solman, vous êtes donc président de la société Poulhouse. Alain Bougrain-Dubourg, je pense que tout le monde vous imaginait végétarien, donc moi le premier, en fait, vous ne l'êtes pas. Mais enfin, vous devez bien avoir quelques habitudes qui sont totalement convergentes et dans la logique de tous vos engagements. J'espère que vous allez tout me dire après Émilie Loiseau sur France Inter.
Ça y est, je pars, je m'en vais à l'autre bout du monde. L'autre bout du monde. L'autre bout du monde. J'arrive sur les berges d'une rivière. Une voix m'appelle, puis se perd, c'est ta voix à l'autre bout du monde. Ta voix qui me dit mon trésor, tout ce temps je n'étais pas mort, je vivais à l'autre bout du monde. Sur la rivière, il pleut de l'or.
quand je m'endors. Mais je veux te revoir encore. Où est-il? L'autre bout du monde. L'autre bout du monde. L'autre bout du monde. L'autre bout du monde.
Émilie Loiseau, l'autre bout du monde sur France Inter.
Êtes-vous libre demain ?
France Inter, des idées pour demain.
Entendu, à demain.
Valère Correa.
Alain Bougrain-Dubourg est mon invité. Vous êtes journaliste et producteur, grand défenseur de la cause animale, de la biodiversité. Dans votre dernier ouvrage, Lettre des animaux à ceux qui les prennent pour des bêtes, vous donnez aussi la parole au peuple des tout petits êtres vivants qui vivent sous terre. C'est un peu les grands oubliés de la biodiversité, eux.
Oui, on commence à les découvrir, notamment grâce au cri d'alarme lancé par les scientifiques et les fameux scientifiques de l'IPBES, dont le président Watson indiquait qu'au fond, on n'aime pas, on s'attarde pas sur les vers de terre parce qu'ils n'ont pas de regard, ils n'ont pas de pattes et sont des animaux venus d'une autre planète. Alors qu'on en a grand besoin, évidemment. Et on sait bien que l'essentiel du vivant se trouve sous nos pieds. Et il y a eu des travaux admirables qui ont été conduits notamment par les Bourguignons et qui nous montrent que si on creuse dans la terre, eh ben on voit une terre mais vivante. On peut faire, chacun d'entre nous peut faire l'essai, hein, en creusant à 50 cm ou tout au contraire une terre morte. Or tous ces micro-organismes participent de la régénération du vivant avec évidemment toute la partie supérieure qu'ils vont descendre tranquillement, végétale, et ils vont mélanger avec le minéral. C'est magique, c'est incroyable.
Oui, les vers de terre sont effectivement très utiles dans la terre, en effet, y compris pour l'agriculture et pour tout un tas de raisons. Et puis, ils peuvent aussi nous aider, pourquoi pas, dans notre quotidien, à réduire nos déchets ménagers. Pour en parler, Alain Bougrain-Dubourg, on accueille Camille Dufetel, rédactrice en chef de l'infodurable.fr, qui vient de nous rejoindre. Bonjour Camille.
Bonjour Valère.
La ville de Dinard a choisi un procédé qui consiste à transformer les ordures ménagères en compost en 4 jours par fermentation accélérée.
Et le compost que nous obtenons peut être utilisé dans de nombreux cas, couches chaudes, maraîchage, parcs et jardins des villes, et je pense que la ville de Dinard sera probablement son propre client le plus important.
Et on va donc jeter un œil dans le rétroviseur des solutions et parler, on l'a compris, compost.
Oui, alors ce n'est peut-être pas très glamour, hein, mais je vous propose qu'on mette le nez aujourd'hui un peu dans nos ordures ménagères, histoire de voir la réalité en face. Évidemment, on parle toujours du plastique, hein, on jette trop, on en utilise trop, mais il n'y a pas que ça, c'est un peu dommage quand même de voir au fond de notre poubelle toutes ces coquilles d'œufs qui nous ont servi à faire une quiche lorraine hier, ces épluchures de légumes, ce marc de café accumulé dans notre cafetière italienne que l'on a nonchalamment jeté, ce pain rassis, ces mouchoirs en papier. Et puis après, on se demande pourquoi on doit descendre aussi souvent ces poubelles. Il ne faut pas s'étonner.
Oui, et puis les déchets biodégradables remplissent quand même un tiers de nos poubelles. Donc il y a un vrai enjeu. Hein.
Oui, car au lieu de les jeter, on peut tout à fait composter toutes ces ordures ménagères organiques et ces déchets verts. Il n'y a pas que les tickets de métro qui se compostent, ne l'oublions pas. Ça va permettre de faire en fait un engrais biologique prêt à servir à nourrir en fait nos végétaux, comme le faisaient en partie nos grands-parents au fond du jardin. Ma grand-mère Solange, que je sollicite régulièrement pour cette chronique.
Et on la remercie d'ailleurs au passage.
Et qui était autrefois agricultrice dans le Pas-de-Calais. Soit elle donnait les épluchures aux lapins ou aux poules, soit elle les mettait sur le tas de fumier. Et puis avec mon grand-père Paul, ils se servaient en fait de ce compost dans leur jardin.
Alors à l'époque, c'était peut-être évident. On vivait aussi moins en ville, hein, parce que ça paraît pas aussi simple que ça à faire aujourd'hui, non ?
Oui, alors on aime bien se trouver des excuses généralement quand il s'agit de bousculer ses habitudes. Mais franchement, ce ne sont pas les solutions qui manquent aujourd'hui. Et si on veut devenir zéro déchet ou presque, il y a vraiment là un moyen simple d'agir. Les solutions, elles se modernisent aujourd'hui. Le compost, ce n'est pas forcément et uniquement faire un tas au fond de son jardin. Déjà, on peut utiliser des bacs à compost. Hein. Il y a trois règles simples à retenir. Faire attention à ce qu'on met dans son bac parce que l'on n'y dépose pas n'importe quel déchet. Surveiller l'aération et l'humidité. Et puis, savoir reconnaître lorsque son compost est mûr. Donc voilà, c'est pas si compliqué. Il existe plein de guides pour apprendre tout ça. Et puis, si on vit en appartement, on peut là avoir recours au lombricompostage.
Voilà, donc là, on fait le lien avec ce qu'on disait avec Alain Beaugrain-Dubourg à l'instant. En gros, on composte ces déchets grâce à des vers de terre, sont donc des lombrics, c'est ça?
Oui, alors dit comme ça, ça ne fait pas vraiment rêver
pas vraiment.
D'avoir des vers de terre chez soi, mais ça se fait très bien avec un système de plateau, quelques couches de papier journal au fond, une couche de terreau au-dessus, des vers, et hop, on va pouvoir placer sur le lit du terreau du carton humidifié découpé en fines lamelles, par exemple, et y déposer ces déchets organiques qui seront décomposés par les vers, des bactéries et des champignons. Les vers vont dégager une matière, le lombricompost, et un liquide, le lombrité, un engrais très concentré.
Oui, donc utile. Et puis si Camille, on n'a vraiment pas envie de faire le compost chez soi, il y a des solutions?
Rien ne nous empêche en fait de mettre nos déchets organiques de côté et de les amener sur un site de compostage de proximité. Il suffit de se renseigner auprès de sa mairie. Et puis, je précise que la loi de transition énergétique pour la croissance verte prévoit la généralisation du tri à la source des biodéchets d'ici 2025. Donc, fini les excuses, ça devrait devenir peu à peu un nouveau réflexe évident pour les Français.
En espérant que cette loi reste dans le marbre et qu'elle ne soit pas amendée d'ici là. En tout cas, on va surveiller. Merci beaucoup Camille Dufetel. Rendez-vous sur l'infodurable.fr pour plus d'infos sur le compost. Alain Beaugrain-Dubourg, vous compostez, vous, au quotidien?
Oui, j'ai une maison dans laquelle je composte quand je suis là, pour tout vous dire.
Si vous dites une maison dans laquelle je composte, il y en a une dans laquelle vous ne compostez pas.
L'autre, c'est un appartement où effectivement je ne composte pas en appartement.
Et le lombricompostage dont vient de parler
Camille,
pourquoi pas?
Je sais bien, ça pourrait être. C'est parce que je suis rarement là.
Ils sont très autonomes, les vers de terre.
Oui, je sais.
Et il existe des maîtres composteurs, vous saviez ça? Alors moi, j'ai appris ça il y a quelques mois. C'est un très joli nom, je trouve, les maîtres composteurs. Ils vous accompagnent pour mettre en place votre compost.
Et ça marche de mieux en mieux.
Voilà. Alain Beaugrain-Dubourg, vous êtes donc un quasi-végétarien et vous faites partie des signataires du Lundi Vert, on en parlait tout à l'heure. Pourquoi défendre un seul jour par semaine sans viande et pas tous les jours? C'est la question qu'on a posée aux signataires de cet appel, dont je fais partie, je le dis au passage.
Parce que c'est la première marche de l'escalier et je trouve que c'est bien. Et très honnêtement, tous les lundis, ça nous interroge. Sur justement l'engagement à venir. Et donc, à mon avis, c'est une porte qui s'ouvre vers une démarche végétarienne. Voilà.
Qu'est-ce que vous avez changé là dans les dernières années, décennies? Est-ce que vous avez commencé à faire votre transition dans votre vie de tous les jours?
Oui, encore une fois, je ne suis pas exemplaire. Moi, je m'investis beaucoup dans la vie associative. Et c'est une chose que je recommande à tous. À chaque fois, on me dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, adhérer à une association de protection animale ou de la nature. D'abord, c'est un geste de solidarité. Ensuite, quand on va taper aux portes des décideurs, plus on est représentatif, donc nombreux, plus on peut être écouté. Et donc, c'est très, très important d'adhérer aux associations. Et en plus, dans la vie associative, on trouve vraiment une relation de convivialité, de l'intérêt général. C'est une rupture de solitude pour certains. C'est une ouverture d'esprit. Et c'est vraiment ce que je recommande. Voilà, on me dit, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Adhérer.
Par ailleurs, vous avez des habitudes alimentaires. Vous me disiez plutôt être tourné vers la bio, vers le local. C'est pas un truc de riche, tout ça, pour vous?
Si, c'est ce qu'on disait, je me souviens, au Grenelle de l'environnement, qui remonte à une dizaine d'années, quand on a voulu développer le bio, c'était l'une des priorités dans les recommandations. Et à l'époque, c'était les bobos parisiens. Vous rendez pas compte, ça coûte un œil et jamais. Vous allez aujourd'hui dans les grandes surfaces, vous avez des linéaires à l'infini sur du bio qui peut être discutable.
Parce ça se discute en ce moment. Vous avez vu, il y a bio et bio.
Il y a bio et bio.
C'est le bio plutôt local, made in France,
voilà,
si possible.
Évidemment. N'empêche que ça y est, l'engagement est donné. On le voit également avec Pool House, avec le prix des œufs qui est élevé. Il n'y a pas de doute, très élevé même. N'empêche qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour vivre mieux. Et plus ils seront nombreux, ces gens-là, eh bien, moins l'œuf coûtera et on peut l'appliquer à bien d'autres secteurs encore.
Et sur quel sujet vous aimeriez encore faire votre transition?
Je crois que la souffrance animale est une chose qui me perturbe. Franchement, encore une fois, il faut souffrir pour imaginer ce que l'autre peut ressentir. Et quand on a la capacité à faire reculer cette souffrance, alors qu'on continue de mettre le couvercle sur cette marmite de souffrance, je trouve qu'on est vraiment coupable, quoi. Vous savez, quand on n'est pas bien, on a une bronchite, on est tombé, on a mal. D'un seul coup, les évidences s'imposent. Ben, les animaux, ils subissent ce cortège d'horreurs en permanence. Et quand on a capacité de faire autrement, et encore une fois, je ne suis pas végétarien, je crois que vraiment, on a le devoir de le faire. Je suis sidéré de voir combien les élus restent indifférents malgré les grandes démonstrations. Je vais vous donner un exemple. C'est extrêmement difficile aujourd'hui en France de faire interdire les cirques sans animaux sauvages. Moi, j'ai eu le bonheur d'aller tourner les tigres, par exemple. Un tigre en Inde, même s'il a de quoi à bouffer, il a besoin de 50 km² et de vivre en solitaire. Dans un cirque, hein, on est en plein été, il y en a un peu. Il a 9 m² de sûr et on le met en cohabitation forcée avec des lions et d'autres tigres. Mmh. Et il aura beau être élevé au biberon avec amour de génération en génération, ça ne deviendra pas un chat, ça restera un tigre avec ses besoins fondamentaux et c'est ça qu'on exhibe à des enfants. Mais c'est une misère inacceptable.
Alain Bougrain-Dubourg, sur un plateau de télé, On n'est pas couché, pour ne pas le nommer, sur France 2, vous avez déclaré que les consommateurs auraient plus de pouvoir avec leur carte bleue qu'avec un bulletin de vote.
Ah oui, il n'y a aucun doute. On le voit. Par exemple, l'élevage en batterie, les poules pondeuses en batterie dont on a parlé tout à l'heure, eh bien, ce sont les consommateurs qui ont fait le choix de rejeter les œufs numéro 3. Hein, il faut pas les bouffer, ceux-là. Et finalement, les distributeurs, les grandes surfaces qui se sont dit « on n'en veut plus ». Alors que dans la loi, ça reste autorisé.
Donc c'est plus utile ça que les 13% pour les écolos aux dernières élections européennes.
Les deux sont utiles parce que les 13% des écolos, 13,5% du reste, ça leur fera plaisir.
Soyons précis.
Ça nous indique quand même qu'il y a une mutation de la société. Et je pense que peut-être ils ont obtenu ce score parce qu'ils ont parlé aussi de la condition animale et de la biodiversité.
La coutume dans cette émission, c'est de finir par cette question et d'y répondre rapidement. Est-ce que vous pensez vraiment que tous les petits gestes qu'on prône aujourd'hui pour faire cette transition, on en appelle aux consommateurs, aux citoyens, est-ce que ça compte vraiment?
C'est essentiel, ne serait-ce que pour sa conscience.
Merci Alain Bougrain-Dubourg d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle votre dernier livre, « Lettres des animaux à ceux qui les prennent pour des bêtes ». C'est paru aux Échappées, ça se lit vite, ça fait mal, mais en même temps, ça fait du bien. Je ne l'ai pas fait exprès, mais la semaine prochaine, c'est Marie Toussaint, eurodéputée Europe Écologie Les Verts, que je recevrai, qui sera donc à ce micro. Pour réécouter des idées pour demain, c'est sur l'appli France Inter ou franceinter.fr, une émission réalisée par Jérôme Boulet, préparée par Antoine Vandeville, à la technique Serge Viguier et à la programmation musicale Djoubaka.